du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Figeac. 97.7.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, Présence Midi, nous sommes en direct, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et j'ai le grand plaisir d'accueillir Androse Jankovic qui est arrivée en courant. Bonjour Androse.
En courant et en boxant. Vous boxez Gilles ?
Non, pas souvent.
Ah bah écoutez, moi je crois que je vais m'y mettre parce que vous allez l'entendre dans quelques minutes. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Karim Ayouaz, ex-champion de boxe, qui a créé une association à Tarbes, Point d'Impact, il va nous en parler. C'est un lieu formidable.
On va apprendre plein de choses.
Oui, et peut-être que vous aurez envie de mettre les, vous savez, les gros gants de boxe là. Peut-être.
Bah, écoutez,
ça va pas être pratique pour pianoter en régie, mais bon.
Ah oui, très bien. Mais on verra tout à l'heure à 12h20 à peu près. Ce sera votre invité. Puis dans cette émission, nous prendrons la direction de l'abbaye de Belloc. Pourquoi l'abbaye de Belloc, Androse ?
Je ne sais pas.
Parce que cette année, eh bien, l'abbaye fête ses 150 ans de présence au Pays Basque.
Ah, voilà. Formidable.
Il y a actuellement 12 moines au Pays Basque. Il y a eu plusieurs événements depuis le mois de janvier. C'est le père Jean-François Dalmand, qui est le prieur de l'abbaye, qui sera notre invité. Merci Androse, à tout de suite donc avec votre invité. Juste avant, ce sont les titres de l'actualité
bien
régionale
sûr.
Avec un boxeur bien connu, c'est Éric Leclerc.
L'industrie d'Occitanie consomme moins d'énergie, mais sa facture double entre 2019 et 2023 selon l'INSEE. La facture énergétique de l'industrie a doublé sous l'effet de la forte hausse des prix de l'énergie. Sur la même période, la consommation d'énergie dans l'industrie diminue de 5% dans un contexte d'effort de sobriété des entreprises. L'industrie en Occitanie est plus sensible à la hausse des prix de l'électricité que l'ensemble de la France en raison d'une plus forte dépendance à cette énergie. Troisième édition de la semaine de l'autonomie en Aveyron du 3 au 14 novembre. Les nombreuses animations programmées par les établissements et services du secteur médico-social s'étendent cette année sur 2 semaines. Dans la continuité des années précédentes, les acteurs de la plateforme des métiers de l'autonomie en Aveyron ont imaginé toute une série d'animations aux 4 coins du département visant à faire découvrir leurs établissements et les métiers qui s'y pratiquent. Le programme s'adresse notamment aux jeunes publics dans l'optique de faire naître de futures vocations. Jeudi 6 novembre, journée portes ouvertes à l'hôpital Rangueil à Toulouse à l'occasion de ses 50 ans. Pour célébrer un demi-siècle d'expertise, de solidarité, de progrès et d'histoire humaine, cet anniversaire sera une belle opportunité pour les Toulousains de rencontrer les équipes soignantes et les experts et de plonger dans l'histoire de l'hôpital à travers un parcours retraçant ses grandes transformations et 50 ans d'innovation médicale. Notez la date, jeudi 6 novembre.
Merci Éric Leclerc. À tout à l'heure, 12h30 pour développer ces titres dans le journal. On retrouve maintenant Violaine Ricourt-Dumas, direction l'abbaye de Belloc qui se trouve dans le diocèse de Bayonne-Lescaret au Laurent.
Présence.
Père Jean-François Dalmand, vous êtes le prieur de l'abbaye de Belloc qui fête ses 150 ans, 150 ans de présence ici au Pays Basque, de rayonnement on peut le dire, parce que c'est une abbaye qui a vraiment beaucoup beaucoup rayonné et qui rayonne encore à sa manière. Déjà, pourquoi fêter ces 150 ans? C'est l'occasion, j'imagine, de rassembler du monde et de se retrouver.
Alors la réponse, elle n'est pas venue de nous, elle est venue de l'Église, qui dans sa tradition... Elle hérite elle-même cette tradition-là du peuple juif. Dans la Bible, on parle des années jubilaires. Et donc, tous les 50 ans, 25 ans, 100 ans, eh bien, on fait une année de pause, une année de réconciliation, une année de mémoire, et on fête une alliance. Donc, la démarche de jubilaire est à ce trio-là. Célébration, croire et servir le prochain qui vient en ce lieu. Donc, pour nous, moines de Belloc, ça correspondait 1875-2025. Vous êtes plus fort que moi en maths, eh bien, ça fait 150 ans. Alors, donc, c'est un jubilé dans un jubilé. C'est comme les histoires de poupées russes, quoi.
Donc, vous avez fait deux jours de célébration, puisque ça a commencé déjà hier, même samedi matin, je crois, pour fêter ces 150 ans. Et l'idée, c'était aussi de rappeler l'histoire de cette abbaye. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être deux mots rapidement sur les débuts et puis aujourd'hui ce qu'est l'abbaye de Belloc?
Eh bien, tout d'abord, la première chose, c'est que nous avons commencé à fêter ce jubilé en même temps que l'Église commençait à fêter son jubilé. Donc, depuis le mois de janvier, nous avons organisé avec plusieurs personnes des événements. Et j'ai dit aux frères que nous sommes que 12 moines, nous ne pouvons pas assurer la responsabilité d'une telle aventure. On va solliciter tous les groupes, tous les mouvements d'église, toutes les associations qui viennent, ou les individuels, qui viennent au monastère, en leur demandant de créer un événementiel autour de ce jubilé de la communauté. Et donc, depuis le mois de janvier, tous les mois, il y a deux événements, des fois trois, qui jalonnent ce jubilé. Alors là, dernièrement, le 5 et 6 octobre, c'était à la paroisse de l'Abbatie de Clérance d'organiser cet événement jubilaire. Et puis le lendemain, ce lundi 6 octobre, eh bien, nous les accueillons au monastère, puisque le monastère est, au niveau ecclésial, est rattaché à la paroisse de l'Abbatie de Clérance, alors que territorialement, nous sommes sur la commune d'Urte.
Mais oui, qui est une autre paroisse.
En fait. Qui est une autre paroisse. Mmh. Donc, les paroissiens de l'Abbatie ont organisé cela de façon très fine, c'est-à-dire qu'ils ont fait appel à une des personnes du village pour faire ce travail de mémoire. Et donc, c'est mademoiselle Renée Lachondi qui, ancienne professeure de lettres, a fait ce travail de mémoire sur l'histoire de l'Abbatie de Clérance. Le tout devait tenir dans une conférence de moins d'une heure pour raconter 150 ans d'histoire. C'est compliqué, mais elle a réussi. Et puis, le lendemain, puisque ça se passait au monastère, dépendant de la paroisse de l'Abbatie de Clérance, c'était autour de frère Marc, notre historien, archiviste, et celui qui a écrit, j'allais dire, une histoire de Belloc avec les critères de l'histoire événementielle et l'histoire historico-critique, telle qu'on conçoit l'histoire aujourd'hui, avec son livre « Des hommes travaillés par Dieu ». Ce livre a été publié au CERF, il a été réédité, et il est en vente dans le petit magasin de l'abbaye. C'est un livre qui est classé aux éditions du CERF comme « Événement d'histoire ». Alors, c'est à lire parce que c'est. Père Marc écrit, il a mené cette enquête comme Sherlock Holmes. Donc, on est pendu aux pages pour savoir qu'est-ce qui va se passer après, quoi. Voilà, c'est une histoire, donc, comme l'a voulu le signaler frère Marc, une véritable aventure, mais en même temps, des hommes qui sont travaillés dans ce sens où, non pas économiquement parlant, mais ils sont travaillés par la sagesse. La sagesse qui conduit l'homme à vivre cette alliance et à savoir que Dieu est son créateur et en même temps celui qui lui pardonne, qui lui fait relever, qui lui dit va toujours de l'avant. Voilà.
Vous suivez la règle de Saint Benoît. Qu'est-ce que ça signifie dans les grandes lignes, suivre cette règle?
Alors, cette règle de Saint Benoît, quand je l'ai lue pour la toute première fois en 1980, je me suis arrêté au premier mot. Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et suis-les effectivement. C'est une règle de sagesse. Cette règle de Saint Benoît est une compilation. Benoît a ramassé plusieurs règles monastiques qui existaient de son temps. Benoît est né en 480 et a pris comme une abeille. Il a fait son miel à partir de toutes ces règles-là. Et il a donné, en plus de ça, une couleur qui lui est propre, de savoir que par soi-même, c'est difficile, mais accompagné par Jésus, alors sa parole devient pour moi un guide. C'est très simple, c'est très très simple à retenir. Eh bien, toute la règle, c'est cela. Alors, il y a, dans cette règle, il y a un certain nombre de chapitres très courts. Benoît est un homme qui a fait du droit à Rome, donc c'est quelqu'un qui, c'est pas un romancier, et il va directement au problème. Il aborde la question, toujours dans un équilibre de sagesse. Et puis, il donne des orientations, mais il n'impose jamais les orientations. Il dit, voilà ce que je vous propose, à vous de voir en communauté, là où vous êtes, ce que vous pouvez faire. Mais voilà la direction. Ce qui fait que cette petite règle, alors, si vous connaissez les livres de poche, c'est format livre de poche, et c'est pas plus gros que votre index. Donc c'est, et je vous donne, dans cette épaisseur-là, la traduction en français et en latin. Donc, c'est facile à lire. Eh bien, ce petit livre-là a permis à ce que cette vie de solitaires, mais qui veulent vivre en communauté de partage et de bien, donc communauté de vie, puissent s'adapter, que ce soit au Japon, en Afrique, en Europe, et je ne sais où encore, quoi. Elle est répandue sur les 5 continents. Mmh. Et parce que Benoît a eu la sagesse de dire à la communauté de s'adapter, le tout, le plus important, c'est de prêter l'oreille à la parole de Jésus. Mmh.
Alors ici à Belloc, vous avez été beaucoup dans l'accueil, vous l'êtes toujours d'ailleurs, c'est un peu une de vos marques de fabrique. Comment est-ce que vous faites pour à la fois vivre une vie monastique, travailler et accueillir ?
Eh bien, c'est une question de calendrier. Le moine est un homme qui se lève tôt, qui garde une sagesse de vie, d'être en forme le matin. Et il peut être du matin, il peut être du soir, mais il faut qu'il soit en forme pour la journée. Et il partage sa journée en fractionnant sa journée. C'est ce qui est le plus dur pour nous, c'est qu'on a une journée qui est fractionnée. Et le temps que l'on... La prière, il y a le temps des offices, 5 fois par jour. Benoît recommande que les temps de prière communautaire soient très courts. Il dit le mot « très court ». Qui puisse suivre la course solaire. En fait, on a un programme de vie, mais ce programme de vie, il est calé sur la course solaire. Le soleil, il recule jamais, il avance toujours. Donc, à toi de programmer ta journée pour pas faire de reculade, parce que tu perds du temps. Alors, cette course solaire, pour moi, était très très symbolique au départ, et ce qui m'a permis de pouvoir assimiler ces horaires. Ces différentes fonctions que l'on doit assumer sans être trop stressé. Je dis trop stressé parce que des fois on a un peu le bourdon qui nous presse, mais en sachant qu'il y aura un temps de pause, il faudra que tu respectes ton temps de pause. Voilà. Alors c'est cette sagesse-là. Et la course solaire est pour moi magnifique. D'ailleurs, les noms de nos temps de prière sont des noms qui sont calculés sur le soleil. L'autre, c'est la louange du matin, heure zéro. Et puis, tierce, c'est la troisième heure après le lever du soleil. Sexte, c'est la sixième heure après le lever du soleil. None, c'est la neuvième heure après le lever du soleil. Et vêpre, vespéré, c'est le soir. C'est la prière du soir. Et Benoît, reprenant cette tradition de la prière judéo-chrétienne, invite le moine à se préparer à la journée du lendemain, le soir, c'est de nuit qu'on a ce temps où le dernier office, c'est déjà, porte le nom du jour du lendemain. Mmh. Et alors, ça vous met en dynamique, c'est-à-dire que dans le travail manuel, j'ai appris que, avant les vêpres, il fallait que l'atelier soit rangé, propre, et les affaires prêtes à redémarrer le matin. Mmh. Voilà.
C'est tout simple.
C'est tout simple.
Ça aide à rythmer effectivement la journée. Exactement. Un dernier mot, frère Jean-François, sur Belloc aujourd'hui. Vous allez nous faire visiter ensuite le monastère, puisque vous êtes installé maintenant sur le monastère Sainte-Scolastique depuis 2 ans maintenant.
3 ans.
3 ans déjà. Comment ça se passe, cette nouvelle vie ? Est-ce que vous êtes heureux de cette nouvelle configuration ?
Bien, c'est une aventure, c'est une audace. On savait qu'on n'avait pas le choix, que c'était le seul choix, et que ce choix nous avons débattu pendant quand même pendant plusieurs.
Radio Présence à Moissac 93.3.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous.
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Plus d'informations sur leur site.
Bon appétit à l'écoute de Présence Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et merci donc à Violaine Ricourt-Dumas. Nous étions en direct de l'abbaye de Belloc qui se trouve dans le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, cette abbaye qui fête cette année ses 150 ans de présence au Pays Basque. La suite de cette émission dans moins d'un quart d'heure, le journal régional avec Éric Leclerc. Mais pour le moment, on retrouve Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence à Foix 100.2.
Bonjour Karima Ayouaz.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes un ex-boxeur international, ancien directeur technique national à la Fédération algérienne de boxe. Je vais vous dire, c'est la première fois aujourd'hui que je reçois un boxeur au micro de Radio Présence et j'en suis ravie. Vous avez fondé il y a 10 ans l'association Point d'Impact à Tarbes. C'est un lieu où on boxe, mais pas seulement. Vous allez nous expliquer tout ça, puis vous nous parlerez aussi, même si je sais que vous êtes un peu timide là-dessus, vous nous parlerez de votre parcours également, comment vous en êtes arrivé là, comment tout simplement vous êtes arrivé à la boxe. On va tout de suite mettre le nez dans votre association Point d'Impact. Aujourd'hui, vous êtes directeur de cette association. Et donc, je le disais, ça fait 10 ans que vous avez lancé cette aventure à Tarbes. Alors, bien sûr, sans doute, on imagine que c'est un lieu d'apprentissage de la boxe. Mais quand on va sur votre site internet, on peut lire ceci: la boxe comme outil pour promouvoir les valeurs citoyennes et olympiques, c'est-à-dire le respect, l'amitié, l'excellence, je crois aussi. En quoi ce sport que vous enseignez, la boxe, peut transmettre ou promouvoir des valeurs citoyennes? A priori, on a du mal à faire le lien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça déjà pour commencer?
Alors tout d'abord, j'aimerais préciser que Point d'Impact, c'est l'aboutissement d'un parcours, un parcours personnel et de rencontres. Donc c'est un parcours de 35 années au service des jeunes et avec l'outil box, et une rencontre avec des jeunes des quartiers, des jeunes que j'ai accompagnés dans le cadre de mes fonctions d'éducateur spécialisé au niveau d'établissements médico-sociaux, et j'ai pu constater un vrai engouement, des attentes par rapport à ces jeunes qui avaient des attentes vis-à-vis de ce sport, mais également des besoins de cadre, des besoins de s'exprimer à travers un sport qui pouvait leur permettre de travailler sur la gestion de leurs émotions, travailler sur le respect de la règle, travailler sur le consentement réciproque et toutes ces qualités et comportementales qui étaient nécessaires.
D'où alors, les valeurs citoyennes, du coup.
Et alors, les valeurs citoyennes, en fait, c'est le cadre qui... C'est pas une discipline en elle-même. Une discipline, un sport, ne véhicule pas de valeurs à lui seul. C'est le cadre dans lequel on le pratique. C'est les valeurs que promeut l'association. C'est le discours, c'est l'exemplarité, c'est le cadre qu'on met et le sens qu'on y donne. Parce que on peut pratiquer du sport dans une autre salle et c'est pas du tout les mêmes valeurs. En tout cas, les valeurs ne sont pas transmises par le sport en lui-même seul, mais par le cadre qu'on y met et le sens qu'on met derrière ce sport, la bienveillance, le respect de l'autre, le dépassement de soi, l'égalité, la fraternité,
sport individuel ou collectif, ça c'est vrai pour le sport en général.
Tout à fait. Moi je le dis toujours que si ma passion aurait été la guitare ou la musique ou autre ou le théâtre, j'aurais pu créer une association avec un autre outil que la boxe, mais avec les mêmes objectifs. En fait, c'est pas l'outil qui fait, mais c'est le cadre et la manière et le sens qu'on donne et qu'on y met derrière l'utilisation de cet outil.
En tous les cas, vous, ce que vous enseignez, c'est la boxe. Alors, la boxe anglaise, alors, quand même une parenthèse pour expliquer la boxe anglaise, la particularité,
alors, la boxe anglaise, parce que c'est pas moi qui vais l'expliquer. On n'utilise que les poings. Alors, il faut savoir que même dans la boxe anglaise, il y a plusieurs types de boxe. Il y a la boxe éducative, où on parle de touches et non pas de coups ni de frappes. C'est de la boxe à la touche, c'est un peu du light, où le coup fort est interdit. On apprend plutôt plus la maîtrise, le côté technique, et ça correspond par rapport à nos 430 licenciés, la grosse majorité des licenciés qu'on a pratiquent la boxe éducative sans coût porté, sans impact. Ensuite, il y a la boxe amateur ou la boxe olympique, où là on peut porter des coups, mais à condition d'y être préparé, d'être passé par la boxe éducative pour la plupart, avoir les procédés défensifs nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la boxe professionnelle, où c'est une autre boxe où on boxe sans débardeur, sans casque, avec des rounds qui commencent à 4, 6, 8, 10, jusqu'à 12 rounds pour les championnats du monde. Pour la boxe amateur, c'est 3 rounds de 3 minutes. Pour la boxe éducative, ça peut être de 3 fois 1 minute à 1 minute 30 jusqu'à 2 minutes. Pour les plus âgés.
Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on comprend que finalement, les plus de 430 personnes que vous accueillez, que vous accompagnez, que vous formez, ne viennent pas toutes pour combattre, quoi. C'est pas la motivation, c'est pas forcément de cogner.
En fait, leur motivation, si elle y est là, ils veulent être dans la confrontation, c'est une mise à l'épreuve, la boxe. Ils viennent un peu se prouver quelque chose, ils veulent se mettre dans une situation un peu inconfortable et se dire, je peux y arriver.
Ouais, parce que concrètement, ils sont seuls sur un ring, c'est ça?
En fait, c'est ça. En fait, moi, je me dis, on vient jamais par hasard à la boxe. C'est vraiment une mise à l'épreuve. C'est des personnes qui viennent chercher autre chose que du sport. C'est très différent de faire du basket ou du hand où il y a vraiment, la boxe est un sport assez intrusif, même si on le pratique dans le cadre de la boxe éducative, je le répète, où il n'y a pas de coups, il y a que des touches, on ne se fait pas mal, où on effleure pratiquement le partenaire. On peut même faire des championnats de France de boxe éducative, mais malgré tout, c'est un sport qui nous met dans une certaine tension, un certain stress qu'on essaye de surpasser. Et à travers ce sport, des jeunes filles, des jeunes garçons viennent chercher là une confiance en eux, une plus de gestion des émotions, et particulièrement deux émotions qui font des ravages, qui sont la peur et la colère. Et la peur, on arrive à la surpasser à travers la boxe. On se dit, on est dans un cadre sécurisé et sécurisant, avec un entraîneur, des éducateurs qui sont là pour se porter garant de notre intégrité physique. Mais malgré tout, je suis sur le ring. Ouais. Mais je suis pas livré à moi-même. Il y a toujours le filet de l'entraîneur, de la règle. On n'est pas dans la rue, quoi. On est dans une association socio-sportive où on connaît les valeurs de cette association. Donc les parents, lorsqu'ils confient leurs enfants, savent que ils ont confié leurs enfants à des éducateurs qui vont utiliser cet outil dans un objectif éducatif.
Aujourd'hui, sur les plus de 430 personnes qui fréquentent Point d'Impact, ce sont principalement des enfants et des jeunes, ou on peut faire de la boxe à tous les âges?
Alors, on peut en faire à tout âge. Ça commence à 7 ans, Point d'Impact. On le fait à 7 ans, c'est tous les mercredis matin. Et j'ai des pratiquantes. On a un créneau boxe santé, sport santé, des mamies de 74 ans. On a un créneau boxe santé qui est...
Pardon, mais ça veut dire donc ces mamies de 74 ans, comme vous dites, elles mettent les gants de boxe
Elles mettent les gants, elles ne sont pas en opposition. Elles ne sont pas en opposition, mais elles font du sac, elles font des leçons avec entraîneur sur des pattes d'ours.
Qu'est-ce qu'elles viennent chercher?
Le dépassement de soi, c'est un défi, c'est un peu comme faire du saut à l'élastique, en fait.
Même à 74 ans,
c'est possible. À 74 ans.
Finalement, c'est un sport d'épanouissement personnel. D'ailleurs, je crois que c'est un des objectifs que vous exprimez.
Ben oui, on vient chercher du bien-être physique, du bien-être mental et du bien-être social. Point d'Impact est non seulement par le cadre qu'on y met, mais aussi par la structure qui nous a été mise à disposition gentiment par monsieur le maire de Tarbes, que je remercie à l'occasion, monsieur Gérard Trémège. C'est une institution et un cadre agréable. On y vient parce que c'est un lieu agréable, mais aussi on y accueille agréablement aussi. Donc on vient chercher aussi cette rencontre, faire un sport qui est pas anodin, faire de la boxe, taper sur le sac et se lancer des défis.
C'est un sport à la fois individuel. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez que c'était intrusif, que ça avait quelque chose d'intrusif. Donc c'est à la fois un sport individuel, mais qui est nécessairement relationnel.
Tout à fait, tout à fait. Je le répète très souvent, on ne peut pas progresser face à un sac. Certaines personnes ont besoin de passer par un côté très individuel, où le collectif les stresse, donc on les épargne de ce côté relationnel dans un premier temps, où ils vont faire plus du sac de frappe, des leçons avec entraîneur, et petit à petit, On se met en face à face et on fait on a besoin d'un partenaire, on fait de la collaboration, de la coopération. Donc on est obligé de travailler.
Effectivement. Rien que ces mots-là cassent un peu les a priori qu'on a sur la boxe. Ouais. Collaboration, coopération, c'est...
Tout à fait. Parce que, par exemple, on va donner des tâches. Boxeur A, utilise le bras avant. Boxeur B utilise la défense. On va donner des tâches. On va avoir une approche très analytique dans un premier temps avec des tâches et des consignes très claires. Où ils devront, qu'ils devront faire pour pouvoir se sentir d'abord du plus simple au plus complexe, du moins stressant, où il y a la moins de surprises possible, où on peut, et ensuite avec plus de surprises et pouvoir s'adapter.
Depuis 10 ans que vous avez créé Point d'Impact, vous avez été témoin, vous êtes encore témoin aujourd'hui que ce sport, cette boxe, elle permet aux gens de se relever, de réveiller en elle quelque chose qu'elle n'avait pas soupçonné. Vous êtes vraiment témoin que les gens peuvent se relever, prendre confiance en eux, prendre peut-être un nouveau départ ?
Tout à fait. Non seulement depuis 10 ans, depuis la création de Point d'Impact, mais depuis 89, je suis éducateur sportif et entraîneur de boxe et j'utilise toujours cette même approche depuis maintenant 36 ans. Et mes premiers élèves sont nés en 77-78, donc ils ont plus de 40 ans. Et ce qui me renvoie et ce qu'ils ont retenu de notre rencontre, c'est justement ça, c'est ce que leur a apporté la boxe pour leur épanouissement. Non seulement maintenant ils peuvent le verbaliser, mais je peux le constater également à travers d'autres personnes qui ne le verbalisent pas, mais dont je vois les progrès dans la manière de se comporter. Donc effectivement, c'est des qualités comportementales, ces fameux soft skills qu'on utilise et qui sont mis en avant grâce à la boxe et au sport en général, sont transférables dans la vie de tous les jours et notamment dans la vie professionnelle également. On pourra en parler à travers des actions comme Point d'Appui.
Oui, alors avant de marquer la pause, juste un mot quand même pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans votre équipe, il n'y a pas que des boxeurs, il y a notamment une personne chargée d'insertion et puis un éducateur spécialisé. C'est assez original, ou alors peut-être que je ne connais pas suffisamment le milieu sportif, mais on ne trouve pas des éducateurs spécialisés et des chargés d'insertion dans tous les clubs de sport quand même.
Non, effectivement, tout à fait.
Ça rejoint ce que vous venez de nous expliquer sur cette nécessité d'accompagner au-delà du geste sportif.
Tout à fait. Depuis 2015, depuis la création de Point d'Impact un peu est venu répondre petit à petit à des besoins, des attentes institutionnelles, mais des besoins aussi individuels de certains jeunes. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est étoffé dans un premier temps d'un médiateur sportif qui va faire de l'aller vers, qui allait travailler dans les quartiers, au pied des tours où on met des actions pour aller à la rencontre des jeunes. Petit à petit, on a répondu à des appels à projets, parce que nous nous considérons comme une association, et nous sommes une association d'intérêt général, donc on est là pour aussi répondre à des besoins sociétals et notamment dans la cohésion sociale, et nous avons donc répondu à des appels à projets autour de l'insertion par le sport, et donc c'est tout naturellement que nous avons donc recruté un éducateur spécialisé, une CIP, une chargée d'insertion professionnelle, un médiateur et des éducateurs sportifs, et également une coordinatrice administrative financière. Nous sommes 7 salariés à Point d'Impact, dont 6 à 35 heures et 1 à 20 heures.
Voilà, donc les enfants que vous accueillez qui ont besoin d'un coup de pouce peut-être, vous pouvez leur proposer un accompagnement vraiment personnalisé.
Alors, non seulement les personnes qui sont licenciées à Point d'Impact, mais même ceux qui ne le sont pas, parce que nous accueillons également ce qu'on appelle des bénéficiaires qui ne sont pas licenciés, parce que nous avons plus de 430 licenciés, mais nous accompagnons et nous sommes en contact au moins une fois ou plusieurs fois dans l'année, face à plus de 2000 personnes dans l'année. Nous sommes en contact à 2200 l'année dernière, personnes ont été en contact avec Point d'Impact dans
c'est-à-dire
le cadre d'un accompagnement.
Des personnes qui vous sont envoyées parce que il y a un petit problème à régler.
Des personnes qui sont orientées par des partenaires comme la PJJ, comme dans le cadre des Tiges, ou par le SPIP, ou par les éducateurs de rue, ou par la mission locale, dans le cadre d'un partenariat et d'un consortium, notamment dans le cadre de Point d'Appui. Il y a des commissions auxquelles on assiste, où les jeunes sont orientés sur la base d'un protocole, d'une fiche d'orientation, où ils passent en commission, ils disent ces jeunes-là, le meilleur accompagnement qui puisse être adapté pour eux, ce serait peut-être un accompagnement avec Point d'Appui. Donc nous travaillons en partenariat avec plusieurs institutions, et quelquefois c'est du bouche à oreille, où des parents viennent, où des des jeunes viennent, ils entendent parler de Point d'Impact et tout ce qu'on fait en dehors de la boxe, parce que on n'a pas que des jeunes qui aiment la boxe qui viennent nous voir, hein. On a des jeunes qui ne font pas de la boxe, qui n'aiment pas ce sport, mais qu'on accueille favorablement et avec grand plaisir, même s'ils ne pratiquent pas la boxe.
Karim, on marque une pause et puis on se retrouve pour parler notamment de toutes ces actions et ces propositions que vous faites. À tout de suite.
Merci Andros Jankovic, je rappelle que vous êtes avec Karim Aïwaz qui est ex-champion de boxe, qui est aujourd'hui éducateur sportif et directeur de l'association Point d'Impact qui se trouve donc dans le département des Hautes-Pyrénées à Tarbes. La suite de cet entretien, c'est juste après le journal présenté par Éric Leclerc puisqu'il est 12h30.
L'industrie d'Occitanie consomme moins d'énergie, mais sa facture double entre 2019 et 2023, selon l'INSEE. La facture énergétique de l'industrie a doublé sous l'effet de la forte hausse des prix de l'énergie. Sur la même période, la consommation d'énergie dans l'industrie diminue de 5% dans un contexte d'effort de sobriété des entreprises. L'industrie d'Occitanie est plus sensible à la hausse des prix de l'électricité que l'ensemble de la France en raison d'une plus forte dépendance à cette énergie. La région accueille peu d'industrie énergétique et ne consomme que 4% de l'énergie nécessaire à l'industrie en France. La Haute-Garonne et le Gard concentrent la moitié de la consommation d'énergie de l'industrie régionale dans les secteurs de la pâte à papier, du ciment, de la sidérurgie, du verre, des matériaux réfractaires et de la construction aéronautique et spatiale. Troisième édition de la semaine de l'autonomie en Aveyron du 3 au 14 novembre. Les nombreuses animations programmées par les établissements et services du secteur médico-social s'étendent cette année sur 2 semaines. Dans la continuité des années précédentes, les acteurs de la plateforme des métiers de l'autonomie en Aveyron ont imaginé toute une série d'animations aux 4 coins du département visant à faire découvrir leurs établissements et les métiers qui s'y pratiquent. Le programme s'adresse notamment aux jeunes publics dans l'optique de faire naître de futures vocations. Ainsi, les établissements médicaux, sociaux et scolaires, nous, des partenaires qui permettent de valoriser des métiers dans un secteur qui peine à recruter. Jeudi 6 novembre, journée portes ouvertes à l'hôpital Rangueil à Toulouse, à l'occasion de ses 50 ans, pour célébrer un demi-siècle d'expertise, de solidarité, de progrès et d'histoire humaine. Cet anniversaire sera une belle opportunité pour les Toulousains de rencontrer les équipes soignantes et les experts et de plonger dans l'histoire de l'hôpital à travers un parcours retraçant ses grandes transformations et 50 ans d'innovation médicale. Au programme, immersion dans un bloc opératoire reconstitué, exposition d'objets issus du musée des instruments de médecine, stand de prévention, d'information et de dépistage de l'hypertension artérielle. Notez la date, jeudi 6 novembre. Lancement de travaux de rénovation et de modernisation au musée Saint-Raymond à Toulouse. Le musée Saint-Raymond, musée d'archéologie de Toulouse, fermera ses portes à compter du 3 novembre pour une durée de 5 mois afin de réaliser des travaux de rénovation et d'amélioration de l'accueil du public. Ces travaux vont permettre de moderniser le système de traitement d'air, renforcer l'accessibilité du musée et moderniser le système d'éclairage.
Merci Éric Leclerc, voilà pour le journal régional. L'info sera de retour dès 13h avec l'actualité nationale et internationale. On retourne à Tarbes avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Présence à Salis-du-Salat, 94.1.
Nous sommes toujours en compagnie de Karim Aïwaz, champion de boxe.
Ex-champion
de boxe.
Petit champion.
Ouais, petit champion, mais enfin, en tous les cas, toujours boxeur. Vous avez créé, il y a 10 ans, l'association Point d'Impact avec ce slogan « Petit boxeur deviendra grand ». Et on comprend mieux ce slogan quand on a écouté attentivement tout ce que vous nous avez dit en première partie. Alors, vous avez aussi évoqué plusieurs actions ou propositions que vous faites. Alors, on ne peut pas toutes les présenter parce qu'il y en a énormément. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées par Point d'Impact. On va peut-être faire le focus sur 3 d'entre elles. La première s'appelle Un crochet par les quartiers. Ça, c'est intéressant. Vous emmenez la boxe dans les quartiers.
C'est là où Point d'Impact est né, en fait. C'est dans les quartiers. La toute première action de toute la multitude d'actions qu'on a mis en place était Un crochet par les quartiers. C'est une action, on fait de l'aller vers. On va au pied des tours dans les quartiers prioritaires, ce qu'on appelle les QPV. Et notamment pendant les vacances scolaires, on essaye de faire de l'animation pour des jeunes qui n'ont pas la chance de partir en vacances et qui s'ennuient un peu. Et l'idée, c'est créer du lien, leur proposer des séances de boxe ludiques avec une bonne ambiance, de la musique, un goûter.
Et ça marche.
Et ça marche. Et ben, il y a un lien de confiance qui se crée. Beaucoup de jeunes, à l'issue de ces quelques séances qu'on propose au pied des tours et dans les quartiers, ben prennent leur licence en septembre, ensuite ou l'année pendant l'année ou à la fin de l'année qui arrive, au début de l'année qui arrive.
Des jeunes donc, qui seraient pas forcément venus vous voir, mais quand vous allez les voir,
exactement,
ça marche.
Et ben tout à fait.
Ils se disent ça peut, j'ai peut-être ma chance, j'ai peut-être le droit moi
tout
aussi.
Tout à fait. De... En fait, c'est la relation qui crée tout.
Ouais, c'est ça.
Les jeunes, comme beaucoup de personnes, hein, appréhendent un peu la boxe parce que ben il y a tous ces préjugés et les parents aussi, c'est normal. Mais quand ils voient la manière dont on le pratique, la personne qui propose, qui va encadrer leurs enfants, les parents sont rassurés, oui. Les enfants sont rassurés. Ah ouais, on peut faire de la boxe dans une ambiance conviviale, toute sécurité. On va pas me casser le nez comme on pense souvent. On va
pas se faire mal. Ça, c'est pour rassurer les mamans, ça.
Oui, tout à fait. Et je les comprends. Mais en fait, c'est vraiment les parents ont besoin d'être rassurés, les enfants aussi. Et ils ont besoin aussi de voir que c'est un cadre éducatif avec de belles valeurs où l'entraîneur est un exemple aussi de la manière dont il va transmettre ses valeurs.
Alors, il y a un autre lieu où vous allez. Et alors là, ça m'a encore plus étonnée. C'est une proposition qui porte le nom sans issue par la boxe. Et là, vous intervenez dans les prisons.
Oui, alors il faut préciser que c'est sans 1 et 2 0. C'est pas oui. SANS.
Voilà, c'est sans le chiffre.
C'est le
voilà.
Chiffre sans issue par la boxe, mais c'est un petit jeu de mots parce que on est en prison, il n'y a pas beaucoup d'issues pour se partir. Mais effectivement, on propose cette action-là pour préparer... Parce que l'idée, c'est que ces détenus préparent leur réinsertion, préparent éviter la récidive, travailler sur la gestion des émotions, le respect de la règle, le consentement réciproque, toutes ces qualités comportementales qu'on peut véhiculer, développer à travers un sport comme la boxe, mais pas que la boxe. Hein, on n'a pas l'exclusivité de cet objectif-là.
Mais en tous les cas, c'est votre outil à vous.
Mais
quoi.
Voilà, c'est exactement là. On a cet outil, il est intéressant parce que il véhicule beaucoup de fantasmes. Il est très prisé par ce type de public où au début, quand on leur propose la boxe, ils pensent que on va aller s'en mettre plein la tête,
oui,
on va se bagarrer.
Pardon,
en fait.
Mais c'est vrai que ça paraît étonnant. On se dit proposer à des personnes incarcérées d'aller boxer, mais est-ce que la violence a vraiment sa place?
Oui. Nous, on part du postulat que la violence, c'est l'intention qu'on y met derrière. Un regard peut être violent. Une main posée sur un visage, poussée comme ça, avec une intention de dégrader l'autre, peut être violente. Mais un point dans le fait donné dans un cadre sportif, dans un libre consentement, avec un consentement réciproque, avec des règles, il peut pas être violent. C'est vraiment l'intention et le sens qu'on y met derrière. Et s'il y a une bonne intention, s'il y a de la bienveillance, et je répète, ça peut être contradictoire, de la bienveillance en faisant de la boxe, c'est pas si violent que ça.
Alors moi, je découvre que finalement, un lieu où on apprend à boxer, c'est pas forcément une école de boxe, c'est une école de vie, tout simplement.
Tout à fait. C'est l'école de la vie, on apprend à se respecter, on apprend à se dépasser, à trouver des solutions, à faire face à la difficulté, à se remettre en question. J'ai été touché, comment ça se fait? Il faut que je trouve une solution. Toucher l'autre, ça travaille de l'intelligence, de la confiance, de la précision, de la vitesse, toutes ces qualités physiques, mais également un vrai travail psychologique pour gérer ses émotions, ne pas tomber ni dans la colère ni dans la peur, rester lucide. Et avec ce public-là, lorsqu'on arrive avec l'outil box, qu'on leur dit, écoutez, premier exercice, on va travailler sur la confiance réciproque. Vous allez baisser la garde. Un de vous deux va baisser la garde et l'autre va toucher les cibles que l'autre va lui donner. Et l'objectif, c'est que l'autre ferme les yeux et qu'il soit en confiance totale. Là, vous dites, c'est incroyable.
Vous demandez à des détenus de s'accorder une confiance
tout
mutuelle.
Tout à fait. Et baisser la garde et fermer les, arriver à faire fermer les yeux aux partenaires et qu'ils nous disent, tu peux me toucher le nez, le front, la joue, et arriver à toucher l'autre sans occasionner aucun stress, et réciproquement. Et ensuite, on travaille en coopération. Une fois avoir fait ce type d'exercice, ça change carrément le cadre. Et on n'est plus dans cet objectif de se faire mal, mais de coopérer à travers un sport.
Quel retour vous avez de la part des détenus, puis de ceux qui les entourent, qui les surveillent, pour dire les choses telles qu'elles sont?
Alors les détenus sont pas ne verbalisent pas beaucoup. Ils sont plus dans le non-verbal, dans le regard, dans la poignée de main, dans l'accolade. Et on voit très bien, moi je ressens très bien en début de séance quand on arrive comment ils nous accueillent. Et puis des fois pas avec grande gaieté, ils sont là mais ils sont pas très expressifs, hein. Ils sont méfiants, ils regardent. Et quand on voit qu'après la séance il y a ces sourires et ces relations qu'ils peuvent avoir entre eux, et des fois des détenus qui sont pas dans le même bloc ou qui se connaissent pas précisément dans ce cadre-là, et quand on voit qu'on arrive à créer du lien, qu'il y a du sourire, qu'il y a des accolades, qu'il y a des poignées de main entre eux et avec moi, je me dis ils m'ont tout dit là, ils m'ont tout dit à travers ça, et ils ont pas besoin de dire plus que ça.
Vous proposez aussi une autre action complètement différente, pas dans les quartiers et pas en prison cette fois-ci. Je boxe mes peurs. Là, je crois que ça s'adresse davantage aux jeunes femmes.
Jeunes et moins jeunes, c'est une action qui est gratuite et qui s'est qui est venue à la demande et on a répondu à des attentes et à des besoins qu'on a identifiés chez des personnes, des femmes notamment, et des institutions qui ont fait appel à nous parce que ils avaient des femmes qui avaient besoin d'extérioriser, de faire du sport dans un milieu et dans un environnement apaisant et sécurisant. Et donc petit à petit, il y a un petit groupe qui s'est créé tous les vendredis matins avec une mixité sociale, une mixité territoriale, une mixité culturelle, et vraiment c'est vraiment le bien vivre ensemble.
Oui, c'est vraiment la rencontre hein, que
ah
vous,
oui, c'est exactement.
Vous misez tout sur la rencontre.
Tout à fait. Et la vie, c'est la rencontre. Tout est basé sur la rencontre. Nos parcours de vie sont l'aboutissement de rencontres. La rencontre de nos parents, de certains livres, de certains ouvrages, de personnes qu'on a rencontrées dans notre vie qui ont été déterminants. Et nous, on veut être cette rencontre à un moment donné qui peut durer un jour, une demi-journée, une heure. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être une rencontre qui va laisser quelque chose, qui va peut-être laisser une graine, quelque chose qui va mûrir ou qui va donner des fruits tout de suite. Mmh. Mais c'est ce qu'on veut, c'est une rencontre. Et puis, il y a du sourire. Lorsqu'elles viennent, ces femmes, elles viennent, elles prennent le café. C'est pas hop, 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 on commence la séance. Ils prennent le café, elles papotent un peu. On a toujours cette demi-heure avant la séance. On commence la séance doucement. On finit avec le sourire, de la musique, de la rigolade. Voilà. L'objectif, c'est pas d'en faire des boxeuses, mais que à travers cet outil-là, la boxe, elles aient ce bien-être physique, ce bien-être mental, ce bien-être social, parce que certaines d'entre elles, c'est la séance avec laquelle elles ont la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Sinon, le reste du temps, elles sont chez elles.
Et vous, votre parcours, Karim, votre parcours de boxeur, ex-champion. Alors, j'aime pas dire ex-champion parce que champion un jour, champion toujours.
Non,
après tout. En tous les cas, est-ce que vous imaginiez, quand vous avez démarré la boxe, et ce serait intéressant de nous dire comment vous êtes tombé dans cette aventure-là, d'ailleurs, de la boxe, mais est-ce que vous imaginiez qu'il pouvait y avoir tout ça derrière des gants de boxe? Est-ce que vous pressentiez que tout ça pouvait en découler? Toute cette aventure humaine, j'allais dire.
En fait, j'ai eu la chance de pratiquer la boxe dans un club où les entraîneurs, c'était pas des fabricants de champions ou des personnes qui nous apprenaient juste à donner des coups de poing, mais c'était des vrais éducateurs. Ils nous apprenaient des leçons de vie, que ça soit au vestiaire, que ça soit quand on partait en transport et quand on partait en compétition. L'entraîneur nous avait un discours très éducatif, nous parlait de la vie, nous donnait des leçons de vie, on était là à écouter, il y avait toujours des anecdotes. Et j'ai eu la chance donc de grandir et d'être en face de personnes qui ont été très importantes dans ma vie parce que ça a été la rencontre pour moi, jeune, à l'âge de 13 ans, rencontrer des entraîneurs qui n'étaient pas que des entraîneurs, qui me parlaient pas que de crochet, de direct, du percut et de combat, mais qui me parlaient de la vie. Et du coup, ça a été important pour moi. Et très, très tôt dans ma carrière professionnelle, sans savoir que je faisais de l'éducation par le sport, sans mettre des mots en disant que je suis un club socio-sportif, parce que le premier club que j'ai eu, c'était en 89, j'étais déjà directeur sportif d'un club en 1989, lorsque j'avais 20 ans. J'étais et boxeur et entraîneur pendant 4-5 ans, je faisais un peu les deux, puis à 25 ans, j'ai arrêté d'être boxeur très tôt, et je me suis consacré totalement à ma fonction d'éducateur sportif. Je préfère le terme éducateur sportif que le terme d'entraîneur. Et très jeune, j'ai compris que la boxe était un super outil, que je n'ai jamais fait de sélection, qu'on pouvait être pas du tout coordonné. Je pouvais voir à travers un jeune les premières séances que ça sera jamais un boxeur. Mais j'étais content qu'il soit à la salle de boxe, même s'il n'allait pas pratiquer de la compétition, qu'il sera, il ne deviendra jamais champion. Mais il avait la même attention et peut-être un peu plus que l'autre, qu'un jeune qui était doué. Parce que je savais qu'à travers ce sport, il pouvait gagner confiance en lui et que je préférais l'avoir dans la salle plutôt que dans la rue. En étant à la salle, on pouvait lui enseigner et lui transmettre plein de belles choses.
Alors, aujourd'hui, ça semble plus facile de comprendre et de percevoir les contours de tout ce que vous nous dites là. Dans les années 80 ou 90, on n'avait pas forcément le même regard sur le sport en général et la boxe en particulier. Vous parliez des mamans un peu en rigolant tout à l'heure, mais c'est vrai qu'a priori, on disait que la boxe, c'était un sport pour les cancres et les voyous qui voulait se taper dessus.
C'est vrai. Et moi-même, j'ai été victime de ça. Enfin, victime. Mes parents avaient du mal à accepter que je fasse de la boxe. Parce que eux aussi, ils avaient cet a priori-là. Et ces préjugés, ils voulaient surtout que je faisais de la natation, que j'avais un bon niveau en natation.
Et quand
natation. Pendant une saison, j'ai essayé de faire les deux. Et puis, j'ai laissé tomber la natation parce que je suis tombé fou amoureux de ce sport, des entraînements, de ce monde, de cette énergie qu'il y avait dans une salle de boxe. C'est très particulier, ces bruits, ces odeurs, cette ambiance d'une salle de boxe, c'est incroyable.
Tous les auditeurs de Radio Présence vont vouloir faire de la boxe.
Et du coup, j'y suis tombé amoureux, et du coup, c'est vrai que on peut avoir des a priori, et notamment dans les années 90, où il n'y avait pas autant de mixité, il n'y avait pas de filles déjà, c'était un sport entre guillemets de bad boy, où j'étais un des rares jeunes lycéens, puis universitaires par la suite. J'avais beaucoup de mes coéquipiers dans la salle, qui avaient arrêté l'école très tôt. Effectivement, mais d'une générosité, des personnes authentiques. J'ai connu un monde à travers les gens du monde de la boxe, des gens qui sont restés encore mes amis actuellement, mais des gens vrais, authentiques, qui viennent, effectivement, qui venaient à l'époque, socialement, qui étaient assez démunis, mais qui avaient une telle générosité sur tous les plans.
Alors le temps passe vite avec vous, Karima Ayouaz. On arrive au terme de cette émission. On n'a pas précisé. Vous aimez les jeux de mots, ça on l'a bien compris. Et il y a un jeu de mots dans le nom de votre association. Point d'impact. C'est un pacte, le pacte quoi, le contrat qu'on passe. Quel pacte vous avez passé vous?
C'est le pacte social. Nous, on veut participer au pacte social. Non seulement le pacte, mais aussi l'impact social qu'on veut, on voudrait avoir. Donc, il y a aussi, il y a le point, POUNG, qui est l'outil.
Ça, on comprend.
Et puis, il y a le pacte et l'impact qu'on souhaiterait avoir à travers cette rencontre, qu'on espère la plus bénéfique possible pour toutes les personnes qui rencontreront Point d'impact.
Point d'impact, donc une association que vous avez créée, lancée à Tarbes il y a 10 ans. Elle se situe dans le quartier de l'Arsenal, c'est ça?
Oui, 8 place Daniel Gerbault à l'Arsenal depuis 2022, grâce à M. Trémège, à la mairie de Tarbes.
Voilà, donc c'est un beau lieu et c'est un lieu où on vit de belles choses. Il y a aussi un site internet, point d'impact, le point, qui est l'outil dont on se sert, le chiffre et pacte, point d'impact. .fr, c'est le site internet sur lequel il y a toutes les informations pour mieux vous connaître, pour découvrir vos actions et pourquoi pas vous rejoindre. Un grand merci à vous, Karima Ayouaz.
Dernière chose, on n'a pas oublié, juste une dernière chose, on a aussi une action pour les personnes en situation de handicap qui s'appelle Paraboxalement Possible, un petit jeu de mots, Paraboxalement Possible. Des personnes en situation de handicap peuvent venir faire de la boxe en fauteuil roulant, handicap, on a des personnes autistes qui ont des syndromes autistiques. C'est tous les mardis, tous les jeudis, on reçoit des établissements médico-sociaux qui nous ramènent des groupes où individuellement des parents peuvent nous ramener des personnes en situation de handicap qui souhaiteraient donc pratiquer ce sport en toute sécurité, c'est possible.
C'est possible, on a l'impression que tout est possible avec vous, Karim. Merci beaucoup. Et puis bravo, puisque vous arrivez juste d'Irlande, je crois, d'où vous êtes revenu avec une médaille d'or.
On est arrivé hier de Belfast avec une belle médaille d'or, remportée par Amin Magomayev, un jeune qu'on a justement rencontré dans un quartier prioritaire lors d'une action accrochée par les quartiers en 2015 et qui n'a plus lâché le club jusqu'à maintenant. Il est médaille d'or, 2 fois champion de France et membre de l'équipe de France.
Merci et bravo Karim. À bientôt sur Radio Présence.
Radio Présence dans le Lauragais, 97.9.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence. Il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Alors, on va dire à nos auditeurs que quand vous arrivez à la radio, on blague un petit peu quand même.
Ouais. Oui.
Vous n'arrivez pas, vous installez pas devant les micros, donc on blague un petit peu. Et vous me racontiez cette anecdote, vous avez des gens que vous connaissez, qui vous ont appelé, qui écoutaient votre chronique sur le plateau de l'Almezan. Alors que vous, vous faisiez une chronique sur le plateau de l'Almezan.
Voilà.
C'est quand même incroyable.
Oui, c'était une chronique d'Henri Russel qui parlait du plateau de l'Almezan.
Voilà. Et cette
on
personne.
Dit qu'il n'y a pas de hasard.
C'est incroyable. Et je sais que cette chronique est aimée. Pour certains, c'est un moment de récréation, un moment de. Ben, on s'évade un petit peu grâce et à oui. vous. Et on passe à toutes les personnes, des fois âgées, qui sont isolées, qui ont. Comme Présence, c'est la radio qui s'appelle Présence.
Oui.
Elle est faite aussi pour ça. Et vous faites partie des gens qui égayaient l'ordinaire de certains. Merci Anne Lasserre pour votre fidélité. Je rappelle, parce que c'est bien de le rappeler à la radio, vous êtes bénévole. Et ça, c'est très gentil à vous parce que ben, vous ne demandez rien. Et c'est même vous qui amenez le papier. Alors, aujourd'hui, vous allez nous présenter un texte écrit par Ramon de Carbonnière.
Oui, alors Philippe, j'ai déjà lu sur cette antenne des textes de Ramon de Carbonnière, car il est impossible de parler de lui, de parler, Philippe, des Pyrénées, sans évoquer Ramon de Carbonnière.
D'ailleurs, il est considéré comme le père fondateur du pyrénéisme. Afin de mieux comprendre la formation des Pyrénées, il tente plusieurs fois l'ascension du Mont Perdu. Il atteint son sommet le 10 août 1802.
Oui, et il découvre les Pyrénées en même temps que le cardinal de Rohan. Il est son secrétaire et il suit le cardinal lorsque celui-ci, après l'affaire du collier de la reine, est obligé de s'exiler à Barège en 1787.
Les Pyrénées sont en effet considérées comme des terres d'exil à l'époque. Hein. Ce sont des terres lointaines situées au fin fond de la France. En plus, elles sont à l'écart des grandes voies de communication et elles deviennent un objet d'étude pour Ramon, mais Anne Lasserre, on vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Ramon de Carbonnière parcourt les Pyrénées à la fin du XVIIIe siècle. Il connaît déjà les Alpes, mais il se passionne pour les Pyrénées. Il dit même qu'après avoir vu les montagnes calcaires, il faut voir les premières montagnes granitiques. Dans ses écrits, il compare souvent les bergers des Alpes et ceux des Pyrénées. Selon lui, le berger des Pyrénées est bien plus misérable que le berger des Alpes. Dans ses carnets pyrénéens, tenus entre 1792 et 1795, voici ce qu'il écrit alors qu'il parcourt le Lavedan. Trouvâmes notre berger occupé à faire son fromage. Tout est ici de la grossièreté des premiers âges, ustensiles et procédés. D'abord, on passe le lait. Le filtre est une tresse de crin pris dans la queue de la vache et roulé au fond d'un entonnoir de bois de pin. Le bois de pin, disent les bergers, est seul propre à cet usage. Le sapin n'y vaut rien. Quant aux vases où on tient le lait, ils sont faits de pin ou de sapin. L'invention en est ingénieuse. On prend une portion d'un tronc de sapin ou de pin pourri sur place. On évide tout l'intérieur qui est dans l'état de décomposition et n'oppose aucune résistance. L'écorce reste avec la partie du bois qui lui est voisine avec l'aubier et qui, étant imprégnée de la térébenthine de l'arbre, a résisté au ver et à la putréfaction. On nettoie et polie à l'extérieur et à l'intérieur le cylindre creux que l'on a obtenu de cette manière. Et il présente des surfaces agréablement variées de veines tortueuses qui lui donnent l'air d'une belle racine de buis. Souvent, il y a des trous occasionnés par l'insertion des branches dont les nœuds ne tiennent point. On donne à ces trous la forme d'une étoile, d'un croissant, et l'on y coule de l'étain qui sert d'ornement au vase. Après quoi, on y attache un fond d'une planchette de sapin. L'on y fixe avec des broches d'étain un manche de buis et l'on y adapte un couvercle muni d'un bouton ou d'une anse. Le lait passé est placé dans ces vases, puis il est plongé dans le courant d'eau le plus voisin où l'on a pratiqué un réduit et de grosses pierres recouvrent le dépôt où le lait se tient frais jusqu'à ce qu'il ait tiré sa crème. La crème est enlevée avec des cuillères de bois. Elle est enfermée dans une outre destinée à faire le beurre à force d'agitation. On n'emploie donc pour faire le fromage que du lait écrémé. On y jette, après l'avoir fait légèrement chauffer, de la présure prise ordinairement dans un estomac d'agneau. Comme on en tue peu, on est souvent embarrassé de s'en procurer. Le lait reposé et caillé, je vis notre berger prendre son bâton, en laver le manche et avec ce bâton agiter circulairement et péniblement le lait qui était alors dans les chaudières de cuivre où il avait été chauffé. Les bergers des Alpes sont plus ingénieux. Ils emploient une sommité de sapin à laquelle on a conservé ses branches latérales et que l'on a bien nettoyée de son écorce. Ainsi, en faisant rouler le manche entre leurs mains, ils séparent le petit lait de la partie caseuse, comme on fait mousser du chocolat. Que de service rendrait ici un homme parfaitement instruit dans l'économie pastorale des Suisses et qui pourrait persuader quelques bergers de ces contrées d'en adopter les procédés. Le petit lait étant bien séparé de la partie caseuse, celle-ci est exprimée, pétrie, salée et mise en pain dans des formes où il est comprimé par des pois. Le petit lait a dans ses pâturages une saveur délicieuse. Le petit lait ne fait pas ici, comme dans les Alpes, le breuvage habituel des bergers. Ils ne le considèrent ici, dans les Pyrénées, que comme un purgatif salutaire. Quelle différence en tout point entre un berger des Pyrénées et un berger des Alpes. Ici, c'est un barbare, surpris au milieu de ses grossières habitudes par la civilisation qui l'environne et ne l'atteint point. Là, c'est un homme versé dans une partie importante de l'économie rurale. Dans les Alpes, je vois un grand établissement pastoral. Dans les Pyrénées, les petites ressources de la vie nomade. Il faudrait être bien ignorant ou de bien mauvaise foi pour ne pas sentir que cette différence ne tient ni au climat ni au caractère. L'un et l'autre sont à l'avantage du berger des Pyrénées. Elle tient à la pauvreté, conséquence nécessaire et terrible d'un mauvais gouvernement. À la pauvreté qui engendre la pauvreté plus sûrement encore que la richesse n'engendre la richesse. À la pauvreté qui se communique des pasteurs à son troupeau, qui prive le veau, l'agneau, le chevreau du lait de sa mère. Fait des élèves sans force, des vaches sans lait, des taureaux sans fierté, qui épuise les pâturages où la nature est féconde, détruit les bois sans les remplacer, repousse au loin dans les vallées basses les troupeaux et les habitations. Ramon de Carbonnière est surtout connu pour avoir écrit « Observations faites dans les Pyrénées » ou « Voyages au Mont Perdu ». Mais il tenait aussi des carnets dont les pages sont noircies d'une petite écriture toute fine. Il y notait ses observations de la journée. Le passage retenu est extrait des carnets pyrénéens, écrit par Ramon de Carbonnière entre 1792 et 1795 et publié par les éditions de L'Échauguette en 1931.
Présence. Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio
www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Radio Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le monde de l'éducation à Rome pour son jubilé. Le pape a rencontré ce matin plus de 6 000...